Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Brexit, chronique d'une rupture annoncée. Une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Vincent Hazard, réalisée par Cédric Ossire. Souvenez-vous du 23 juin 2016, une journée qui a ébranlé le Royaume-Uni et l'Europe, et pour cause. Ce jour-là, 17,5 millions de Britanniques, soit 51,9% des voix, votent en faveur d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, à l'issue d'une campagne axée sur l'immigration et l'économie. Le Royaume-Uni, qui avait rejoint la Communauté Européenne en 1973, devient donc le premier pays à sortir de l'UE. Mais revenons un peu sur l'histoire et ses rapports difficiles entre l'Europe et la Grande-Bretagne tout au long des 50 dernières années en mode « je t'aime moi non plus ». Car avant que la Grande-Bretagne n'entre dans l'Union, le 1er janvier 1973, le général de Gaulle oppose par deux fois son veto à l'entrée de ce pays dans le marché commun, le premier en janvier 1963, le second en novembre 1967. C'est dire si cette entrée a été discutée, nous vous l'avons raconté d'ailleurs, hier, dans Affaires sensibles. Mais en cette fin de printemps 2016, en décidant de soumettre à référendum le maintien ou la sortie du Royaume-Uni dans l'Union Européenne, David Cameron, le premier ministre britannique, joue le sort de son pays, en quelque sorte à la roulette russe, pour sauver sa peau, probablement, et tenter de ressouder son parti conservateur, très probablement également. En face, son ami depuis le lycée, Boris Johnson, maire de Londres et membre du même parti, qui lui, au fil de la campagne, prendra fait et cause pour la sortie, donc pour le Brexit. Ses deux vieux compagnons n'en sont pas à la première trahison près. Les rôles étant campés, le spectacle peut donc commencer. La Grande-Bretagne est une île à la dérive depuis la victoire du Leave, son destin semble s'écrire en pointillés. Dans la fiction, ce sont ses destins et ses voix contradictoires que vous allez découvrir, deux camps dans lesquels les partisans du Remain, pour rester dans l'Union donc, ne sont pas si combatifs que cela, et ceux du Leave, on quitte le navire européen, eux, à court d'arguments crédibles. Dans le journal Le Monde, daté du 3 juillet 2016, paru quelques jours après la victoire des adversaires à l'Union Européenne, les journalistes proposent une lecture des événements à la fois originale et passionnante. Ils donnent de l'histoire, la petite comme la grande, une définition entre le grand guignol et la tragédie shakespearienne, et découpent la tragédie du Brexit en 5 actes inspirés de Richard II, Henri IV, Macbeth ou encore Othello. Une figure de style? Certainement pas. Car aujourd'hui encore, nous ne savons toujours pas si nous sommes dans le grand guignol ou la tragédie. Bref, les Anglais, à leur tête la première ministre Theresa May, veulent-ils oui ou non du Brexit? Il est aussi difficile aujourd'hui comme hier de comprendre précisément ce que veulent les Britanniques. Alors après la fiction, pour continuer notre voyage dans cette aventure anglaise et essayer de mieux comprendre, nous recevrons Anthony Bélanger, chroniqueur à France Inter, spécialiste de géopolitique.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Brexit, chronique d'une rupture annoncée, de Vincent Hazard.
Hé, vous me bougez ça tout de suite, hein? Non, mettez-le ailleurs.
Qu'est-ce qui se passe, Grinch? Problème?
Mais oui, monsieur le Premier ministre, il faut bouger le drapeau.
Le drapeau européen?
Mais oui, il faut le bouger, il faut pas qu'on le voit à l'image.
Toi et ta manie du détail.
Il est toujours aussi inconscient, mais il le fait exprès.
Tania Morton, qu'est-ce que tu fais à Bruxelles?
Bonjour, Craig. J'ai assisté au triomphe de ton Premier ministre. Il paraît qu'il a obtenu beaucoup de concessions de l'Union européenne. Ce serait dommage de tout gâcher en posant à côté du drapeau européen. Et pas un Union Jack. Très mauvais pour l'image.
Ah, mais ça fait du bien de tomber sur une professionnelle qui comprend mes problèmes. Mais dis-moi, sérieusement, qu'est-ce que tu fais là?
T'as pas été mis au courant? Je suis assignée par les travaillistes à la campagne sur le référendum européen. Et comme sur ce coup-là, travaillistes et conservateurs tombent d'accord pour rester dans l'Union...
Tu veux dire qu'on va devoir travailler ensemble?
Ça fait bizarre, hein? Sauf si la brillante négociation de ton Premier ministre rend inutile le référendum qu'il avait promis dans sa campagne.
Ce n'est pas seulement mon Premier ministre, hein. C'est aussi le tien. Et non, les eurosceptiques trouvent que les concessions de la Commission européenne ne sont pas suffisantes.
Tant mieux. Parce que j'ai refusé du boulot pour venir faire cette campagne. Ça aurait été dommage que ça s'annule.
J'ai cru entendre que tu avais été évincé depuis l'arrivée de Jeremy Corbyn à la tête du parti.
T'inquiète. Les leaders passent et les spin doctors restent. Corbyn finira par dégager tôt ou tard et je reprendrai du service. Je suis même plutôt contente de ne pas me charger de sa com. C'est la cata, ce type. Par contre, si on doit bosser ensemble, il faudra éviter d'aborder les sujets qui fâchent. Excuse-moi. Allô?
Allô, Tania?
Maman, je suis à Bruxelles. Ça va ?
Oh, pardon. Je me disais juste, si tu veux, tu peux passer ce week-end pour te requinquer. Il me reste du Christmas pudding. Je finirai pas toute seule.
Maman, Noël, c'était il y a 2 semaines. Je peux pas passer tous les week-ends.
Oh là là, d'accord. J'ai des quotas pour voir ta mère.
Oh, mais c'est pas ce que je vais dire, mais écoute, on démarre la campagne du référendum, là.
Ah, et l'Europe, c'est plus important que ta mère.
Que répondre à ça ? Elle le fait exprès pour me culpabiliser. Ça et le fait que je sois toujours pas mariée à 44 ans. Non, je tiens plutôt de mon père. Paix à son âme, qui lui était politisé, fervent travailliste, un ancien mineur gallois, dont j'ai aussi hérité la grande gueule.
Le problème des conservateurs, c'est qu'ils passent à côté des bonnes idées parce qu'ils n'écoutent pas les autres.
C'est pour moi que vous dites ça ?
Ne vous inquiétez pas, monsieur le Premier ministre. Tania est un peu abrupte, mais elle connaît son métier.
Je me permettrai pas. Aujourd'hui, vous n'êtes plus conservateur, vous êtes le Premier ministre. Je parle du parti en général. Je dis juste que dans la campagne qui s'annonce, il va falloir rassembler tous ceux qui soutiennent l'Europe, qu'ils soient de droite ou de gauche.
D'autant qu'il y a des députés de chez nous qui vont appeler à voter pour la sortie. Le Brexit, comme ils disent.
Aujourd'hui, dans la population, il y a 36% de pro-européens et 29% d'eurosceptiques convaincus. Il reste 35% de gens qui soit s'en foutent, soit n'y ont pas encore réfléchi. Et pour parler à ces gens-là, il faut trouver un message fort.
Les gens n'aiment pas trop l'Europe. Mais ils ont peur des conséquences si on la quitte.
La tête plutôt que le cœur, c'est ça le truc, l'argument économique. C'est la base en politique. Le peuple ne vote jamais contre son propre intérêt financier.
Oui, c'est le cœur du problème. Mais ensuite, vous pensez pouvoir allier les travaillistes alors qu'ils me détestent.
La ligne officielle est de vous soutenir. Maintenant, je ne sais pas ce que Corbyn va faire. Autant le dire clairement, ça reste entre nous. Je ne sais même pas s'il veut vraiment rester dans l'Europe.
Ça part bien.
Bravo.
On sent que ça te fait du mal de le dire, hein, Boris ?
Non, mais on dirait que le travail de maire de Londres est plus absorbant que celui de Premier ministre. Tu arrives encore à trouver du temps pour t'entraîner. C'est pas juste.
Oui. Ouais, mais comme tu ne te représentes pas, dans quelques semaines, tu auras tout le temps de pratiquer. Hein. Et d'ailleurs, tu sais un peu ce que tu vas faire de ton temps ?
Je te vois venir. Tu veux savoir si je vais faire campagne pour le référendum ?
Oui, vu ta popularité. Tu pourrais devenir la tête de gondole des conservateurs. Moi, je ne peux pas en tant que Premier ministre.
David, tu sais bien que je n'ai pas encore choisi mon vote.
Ah oui. Tu fais jouer le suspense. Boris, tu ne penses pas sérieusement que sortir soit une bonne chose ?
Je vais prendre une décision rapidement. Dans tous les cas, je te promets que je ne ferai rien qui pourrait te nuire à toi et au gouvernement. Je me tiendrai en retrait.
Boris Johnson et David Cameron sont amis depuis le lycée. Enfin, je devrais dire qu'ils se connaissent depuis le lycée. Difficile de définir ce qui unit ces deux-là. C'est pas vraiment une amitié, c'est plutôt une rivalité tiède, qu'ils traînent comme un boulet.
Et c'est vraiment à contre-cœur que j'ai choisi de soutenir le mouvement qu'on appelle Brexit. Et je ne veux en aucun cas causer du tort à notre gouvernement, et à notre merveilleux, merveilleux Premier ministre. Mais je veux une meilleure vie pour les Britanniques. Je veux qu'on reprenne le contrôle. Il faut que la Grande-Bretagne reprenne le contrôle.
Ça, c'est tout lui, ça. Il te dit une chose, puis après, il fait le contraire. Et tout ça sur un sujet aussi grave.
On peut faire fuiter ce revirement dans la presse. Ça le décrédibilisera.
Non, on n'attaque pas les hommes. On les battra sur le terrain des idées.
C'est tout à votre honneur. Mais oui, bien sûr. Monsieur le Premier ministre veut se la jouer chevalier blanc. On en reparle dans quelques semaines.
Monsieur Johnson, nous devons couvrir beaucoup d'autres questions pour les téléspectateurs. Alors répondez-nous clairement.
Je suis persuadé qu'avec le Brexit, on va reprendre le contrôle de nos dépenses. Et on aura le choix de réinjecter cet argent dans des causes nationales. On donne beaucoup trop d'argent à l'Europe. Il faut reprendre le contrôle.
Mais vous dites que nous avons besoin du marché unique. Et il faudra payer pour y avoir accès si nous ne sommes plus membres. De quelle somme parle-t-on ?
Payer. Pourquoi payer, hein ?
Mais les pays qui ne sont pas dans l'Union paient pour accéder au marché. Vous pensez que les 27 pays nous laisseraient y accéder gratuitement ? Le directeur de la Banque d'Angleterre a déclaré que le montant serait astronomique.
Non, Je vous ai donné une indication sur les montants. Enfin, une idée des montants qui sembleraient réalistes.
Quels montants ? Vous ne nous avez donné aucun chiffre.
Je ne vois pas pourquoi on devrait payer. Ou alors une petite somme.
C'est ça, une petite somme.
Si David Cameron avait accepté de débattre contre Boris Johnson, il n'en aurait fait qu'une bouchée. Mais il ne veut pas de confrontation avec des membres de son parti, il veut préserver l'unité. Pourtant, c'est clair que Boris utilise le référendum pour fragiliser Cameron au sein du parti. S'il arrive à faire une belle campagne pour le Brexit, il pourra récupérer la place de Premier ministre. Et on dirait bien que David Cameron refuse de se battre.
Boris s'était assis de quel côté la semaine dernière ?
On fait toujours pareil. Vous serez assis à droite de l'écran. Je vous laisse vous préparer.
C'est parfait. C'est sur mon meilleur profil. J'espère que je ferai mieux que lui.
Ce sera pas dur. C'était un fiasco. Mais attention à ne pas noyer les gens avec des chiffres.
Il a été nul. Mais bon, tous les experts le disent. La Banque d'Angleterre, les syndicats de patrons, le FMI. Si on sort, c'est la cata pour l'économie.
Oui, mais les sondages se resserrent quand même. Il ne faut pas se relâcher. Il faut parler simplement.
Non, mais c'est normal que ça se resserre. Et puis on attend toujours que ça bouge chez vous.
Beaucoup de gens à gauche considèrent que ce référendum est une de vos promesses de campagne.
On a vu Corbyn nulle part. Il refuse de mouiller la chemise pour pouvoir m'attaquer ensuite, quel que soit le résultat.
Il n'est pas le seul à vouloir votre place. Boris aussi. Monsieur le Premier ministre, il est peut-être temps de contre-attaquer. On a de quoi ?
Non, on gagnera avec le bon sens économique. Les Britanniques savent où est leur intérêt.
Monsieur le Premier ministre, ça va être l'heure, allons-y.
Je suis. Quelle est l'andouille qui a eu cette idée de référendum ? Franchement.
On est tous derrière vous. Je vous rejoins sur le plateau.
Craig, il faut changer de stratégie. L'économie, c'est trop compliqué, les gens n'y comprennent rien.
Il faut pas prendre les gens pour des idiots. Les gens pensent avec leur porte-monnaie.
Pas cette fois-ci. Tu vois bien que même si Boris raconte n'importe quoi, les sondages ne bougent pas. Le problème, c'est qu'on doit leur vendre l'Europe. Alors que ça fait 30 ans que la presse et tous les politiques tapent dessus parce que ça les arrange bien. Et maintenant, nous, on a 3 mois pour dire qu'en fait, l'Europe, c'est super. Ça ne peut pas marcher.
Je sais bien que c'est pas simple. L'Europe a une image détestable. Tu vois, lundi, on a dû diplomatiquement expliquer à Merkel que c'était pas une bonne idée de lancer un appel à rester dans l'Europe.
Ah oui, non, mais elle est con, quoi. Elle sait bien que les tabloïds vont la traiter de nazie si elle se mêle du vote.
Ouais, exactement. La presse, c'est un cauchemar à gérer en ce moment.
Tu me fais marrer.
Ils nous allument à tout va. On en a pris plein la tête pour le vote du budget, avec les coupes dans les aides sociales. Ils ont sorti la déclaration de patrimoine du Premier ministre et même des photos de sa femme en bikini.
Oh, sans déconner. Arrête, tu vas me faire pleurer. Maintenant, tu sais ce que ça fait quand Rupert Murdoch et toute sa presse de droite sont contre toi. Nous, ça fait 40 ans qu'on se pense à non-stop dans la tronche. Va falloir arrêter de chouiner et vous acheter des couilles si vous voulez la gagner, cette campagne. Quel crétin, ce Craig. Lui, Boris Johnson, David Cameron, sont tous des gamins pourris gâtés, qui savent plus quoi faire dès qu'on leur refuse quelque chose. Ce sont des grands bourgeois qui ne connaissent rien à la vie des gens.
C'est toi utile, Camille ?
Ça va, et toi, maman ?
Tu veux pas pratiquer ton galois puisque tu es là ?
J'ai fait un effort pour me libérer, alors commence pas.
Ouh, madame est trop bonne. Une visite à sa vieille mère tous les 3 mois, c'est un honneur.
Pardon. Excuse-moi. Ça me fait plaisir. C'est mon dernier week-end dispo avant le vote. C'est un vrai casse-tête, ce référendum.
Tu veux reprendre du lapin ?
Ouais, je veux bien. La presse monte tout en épingle. La moindre déclaration est déformée, amplifiée. Pouf, on est sur les nerfs.
J'en ai pris 2. J'ai eu un prix sur le marché. Moi, tu sais, maintenant, je suis moi la politique. Quand on voit ce qui se passe, il y a de quoi être blasé.
Arrête, maman. T'es une travailliste pure et dure.
Je comprends pas pourquoi tu soutiens Cameron maintenant. T'es un petit bourgeois anglais qui déteste les travailleurs en général et les Gallois en particulier.
Oui, mais là, il a raison. Il faut rester dans l'Europe.
Son Europe des inégalités, là ? Avec tous ces lobbies qui nous imposent leurs lois ?
De quelle loi tu parles ? Ah, tu vois, t'es incapable d'en citer une seule, c'est de la propagande. Par contre, si on sort de l'Europe, on se prend une récession économique terrible.
Mais ça aussi, c'est de la propagande. En fait, on n'en sait rien.
Mais tous les experts le disent. Si on sort, c'est la cata.
Ah bah, les experts, merci. Ils sont incapables de dire combien il y a de migrants dans le pays.
Ah bah, voilà, tu parles d'immigration comme les fachos maintenant.
Fachos, moi ? Mais ouvre les yeux, Tania. Tu vis dans ta bulle à Londres. Mais t'as vu l'état du village ? T'as vu le chômage ? On peut pas accepter que des gens viennent ici et prennent le boulot. Je les juge pas. Ils sont encore plus exploités par les patrons. Mais ils contournent nos lois. Et ça, c'est Bruxelles qui permet. On peut pas continuer comme ça. Il faut reprendre le contrôle.
Reprendre le contrôle. C'est un slogan efficace. 3 mots qui restent gravés dans la tête. Moi, j'entends reprendre le contrôle des frontières. Pour ne pas dire virer les étrangers. Dans la bouche de ma mère, ça fait mal à entendre. Mais quoi répondre? Les gens ont peur, c'est normal. Personne ne sait ce que l'Europe va faire pour gérer la crise migratoire. Pour se donner une chance, il faudrait donner un vrai pouvoir politique à Bruxelles. Et ça, les Britanniques ne veulent pas en entendre parler.
J'ai entendu votre désarroi. Le peuple britannique a raison d'être inquiet de l'immigration. Mais on ne peut pas sacrifier notre économie en fermant les frontières. On peut rester en Europe et imposer des quotas d'immigration. Je le ferai, je m'y engage dans un délai, etc.
C'est pas une bonne idée.
Enfin, ils nous étrillent sur l'immigration depuis des semaines. Vous avez vu leur dernière affiche?
Oui, celle avec les migrants montrés comme des hordes d'envahisseurs, c'est horrible. Mais si vous cédez à ces histoires de quotas maintenant, vous passez pour un faible. On n'a aucune garantie que Bruxelles accepte derrière.
Et qu'est-ce qu'on fait alors? On a le débat de ce soir, ils vont encore en remettre une couche?
Il est trop tard pour faire de la pédagogie. Il faut aller sur leur terrain, allumer un contre-feu, faire le buzz.
Allô?
Allô, Boris.
Oui?
C'est David Cameron.
Bonjour, monsieur le Premier ministre.
Écoute, tu dois faire quelque chose, là. Ça dépasse les bornes.
C'est à cause de l'affiche? Désolé, mais c'est le UKIP de Nigel Farage. Je ne suis pas le grand Manitou qui contrôle tout ce qu'il dit dans son camp.
Boris, toi aussi, tu lances des rumeurs. Ce que tu as dit sur la régularisation d'un million de migrants, c'est un mensonge et tu le sais. Tu joues un jeu dangereux.
Tu sais bien que j'ai moi-même du sang turc. Je suis une sorte de métèque apatride.
Arrête ton baratin. La campagne prend un tournant clairement xénophobe. Cette affiche, c'est pas possible. Il faut la retirer.
J'ai essayé, mais je te promets rien.
J'espère que tu arrives à bien dormir la nuit. Si vous gagnez... C'est ton nom et le mien que l'histoire associera à notre sortie de l'Europe.
Les sondages vous donnent 10 points d'avance.
Au revoir, Boris.
Au moins, sa santé mentale est intacte. Il est juste un tout petit peu cynique.
Bon.
Oui?
Craig? Alors, le débat s'annonce comment?
Non, pas mal, pas mal. Sadiq Khan et Nicola Sturgeon du Parti Nationaliste Écossais sont arrivés. Ça fait bizarre de les voir du même côté.
Comment ça va se passer?
Alors, 3 contre 3, un de chaque parti dans chaque camp. Bon, ça risque d'être un peu le bazar sur le plateau, mais les journalistes sont confiants.
En face, ils ont mis Boris?
Oui, pourquoi?
Qui en a mis pour les conservateurs?
Amber Rudd.
Elle est bien. Bon, il faudra lui donner des instructions.
Boris, vous le savez bien, l'économie est un problème complexe. Il faut bien regarder les chiffres. Même si pour vous, en ce moment, le seul chiffre qui vous obsède, c'est le chiffre 10. 10 pour 10 Downing Street.
Ça y est, on balance enfin nos premiers missiles. Demain, la presse va dézinguer Boris Johnson. Ça va faire oublier l'immigration pour un temps.
On apprend à l'instant que la députée anti-Brexit, Jo Cox, a été poignardée lors d'un déplacement de campagne. Elle est décédée avant l'arrivée des secours. Un homme blanc de 52 ans a été arrêté. Il est actuellement interrogé par la police. Il ferait partie de la mouvance extrémiste Britain First. Jo Cox s'était fait connaître pour son soutien aux réfugiés et ses positions très progressistes sur la question migratoire.
Bon, et qu'est-ce qu'on fait maintenant?
On respecte la période de deuil et l'arrêt de la campagne pendant une semaine.
Il restera 2 jours avant le vote. La campagne est terminée.
Ben finalement, c'est plutôt bon pour nous. On est toujours à 54% contre 46%.
On peut espérer que cet horrible meurtre fasse redescendre le niveau de xénophobie dans le pays.
Oui, ça ne peut aller que dans notre sens. Les gens vont réfléchir.
Espérons que vous ayez raison.
Exquise, Tania. C'est toujours un bonheur de vous voir.
Bonjour, Boris. Dites-moi, ça vous prend souvent de venir au Parlement pendant votre temps libre?
Oui, je m'ennuie avec cette trêve et votre Sadiq Khan qui m'a volé ma mairie. Londres change de mère comme une maîtresse française change d'amant, elle n'a aucune loyauté, alors je viens noyer mon chagrin à la cafétéria.
Oui, enfin c'est pas ce qu'on raconte.
Comment ça?
Il paraît que vous draguez les députés conservateurs pour renverser le Premier ministre après le référendum.
Ce sont des fariboles.
Ça paraît plausible. Vous avez une chance de devenir Premier ministre, ce serait dommage de passer à côté. Vous avez été efficace, à défaut d'être honorable.
Allons, Tania, vous avez trop de classe pour vous abaisser à des insultes.
Quelles insultes? Vous ne me connaissez pas, Boris. C'était un compliment dans ma bouche. Le jour où je vous insulterai, vous le sentirez passer. Rassurez-vous, je ne balancerai rien à la presse. Le vote est dans 2 jours. Ce qui compte pour moi, c'est qu'on reste dans l'Europe. Après qu'on ait un grand bourgeois ou un autre à la tête du pays, je m'en contrefous. Dès le lendemain, je recommencerai à faire tout mon possible pour vous virer du pouvoir, tous autant que vous êtes. Les résultats commencent à tomber. Les sondages à la sortie des urnes nous donnent gagnant à 52%. Ça s'est encore resserré, mais a priori, ça passe. Le premier résultat officiel tombe vers 20h. 61% pour le Brexit à Sunderland, dans le nord des industrialisés. On le savait, c'était prévu. Et c'est pire que ce qu'on pensait. Les heures passent. Newcastle. Tout le nord-est est catastrophique. Et puis ça s'enchaîne. Le sud, l'est, le pays de Galles. Mon pays de Galles, qui vote majoritairement pour le Brexit. On compte encore sur les grandes villes pour faire basculer le vote. À 3h du matin, Birmingham, Manchester tombe. Puis les quartiers de Londres. Les villes ont massivement voté pour rester, mais ce n'est pas suffisant. À 4h du matin, les chaînes annoncent la victoire définitive du Brexit.
Bon, eh bien ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. Ça va? Vous tenez le choc?
Ça va, monsieur le Premier ministre.
Et vous? Comment allez-vous?
Ça va.
La livre plonge déjà de 20% à la bourse. Les Écossais qui ont voté à 65% pour rester veulent relancer un référendum sur l'indépendance.
C'est un cauchemar.
Excusez-moi.
Allô?
Boris, je voulais t'appeler pour te féliciter.
Merci, monsieur le Premier ministre. C'est tout à votre honneur. À partir de maintenant, il faudra rester en contact pour démarrer les négociations du Brexit.
Oui, d'ici 10 minutes, je vais faire une annonce. Je vais reconnaître le résultat et lancer la suite. Allume ta télé.
D'accord.
Très bien. À tout à l'heure, alors.
Il se prend déjà pour le Premier ministre.
Pourquoi est-ce qu'il se gênerait? Et c'est pour cela que je ne pourrai pas être le capitaine qui dirigera notre pays vers sa nouvelle destination. Le peuple britannique a pris la décision de choisir une autre voie que celle que je proposais. C'est pour cela qu'en tant que capitaine, je ferai de mon mieux pour stabiliser le navire dans les semaines qui viennent, en attendant qu'un nouveau leader soit désigné pour le pays dans les plus brefs délais.
Voir la tête de Johnson après la démission de Cameron. Le capitaine déserte et le laisse diriger le Titanic. On a pris l'iceberg en pleine face et comme à l'époque, les plus riches ont les canots de sauvetage. Les pauvres n'ont pas mesuré que bientôt les aides européennes vont s'arrêter et que les conservateurs n'auront ni l'envie ni les moyens de les remplacer. Comme dans mon cher pays de Galles, toutes les anciennes vallées minières désindustrialisées ont voté pour le Brexit. Et bientôt elles n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Et moi, je pleure déjà. Nous avons échoué. J'ai échoué à faire triompher une vérité compliquée face à des mensonges simplistes.
C'était Brexit, chronique d'une rupture annoncée, de Vincent Hazard. David Cameron, Gérard Cherki, Boris Johnson, John Arnold, Craig Olivier, Laurent Dolce, Tania Morton, Sophie Quinton, Stéphanie Morton, Elisabeth Mazef, Andrea Maher, Anne Cosmao, Amber Roud, Cécile Ribot-Cayol. Et avec les voix de Malo de la Tulay, Élise Aubé, Stéphane Sestac. Bruitage, Sophie Bissens. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel et Bastien Varigaud. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Cédric Ossir. Still don't know what I was waiting for. And my time was running wild. A million dead end streets. And every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet.
So I turned myself to face me. But I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Change it.
Turn and face the strain.
Change it. Don't wanna be a richer man. Change it.
Turn and face the strain.
Change it. It's gonna have to be a different man. Time may change me. Sides, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes.
Turn and face the strain. Changes. Don't tell them to grow up out of it.
Changes. Turn and face the strain.
Changes. Where's the shame you've left us up to her next to me? Time may change me. You can't twist time. Strange fascination.
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Brexit, chronique d'une rupture annoncée. Notre invité, Anthony Bélanger, journaliste, chroniqueur sur France Inter. Bonjour Anthony Bélanger.
Bonjour Fabrice.
Merci d'avoir été avec nous hier et d'être avec nous aujourd'hui. Les auditeurs de France Inter vous connaissent bien. Les leftos peuvent entendre vos chroniques à 6h49. Ça fait un peu horaire SNCF, ça, on va dire 7h10. Et ceux de la fin d'après-midi.
Avec plaisir.
Ceux de la fin d'après-midi le jeudi à 18h55 avec votre édito dans l'émission de Géopolitique un jour dans le monde. Voilà, journaliste et ancien chef des infos au Courrier International. Vous êtes maintenant chroniqueur aux Inroc et aussi à BFM. Alors avant de parler, nous allons entendre ensemble deux archives, tour à tour, hein. L'une de Boris Johnson, donc maire de Londres, en 2016, et l'autre de Theresa May, c'était cette année.
C'est précisément parce que nous sommes restés en dehors de l'euro que nous avons l'une des meilleures économies d'Europe. Et si nous nous libérons des chaînes de Bruxelles, nous pourrons enfin nous consacrer à toutes les opportunités qu'un marché réellement libre offre, ce qui nous est impossible pour le moment.
La Grande-Bretagne souhaite rester un voisin avec qui les choses se passent bien en Europe. Je sais que certains appellent à un accord punitif qui viendrait justement punir le Royaume-Uni. Je pense que ceci serait regrettable et ce serait calamiteux, je pense. C'est quelque chose qui serait tout à fait inacceptable. Et je sais, bien sûr, que peut-être ce scénario ne se produira jamais. Je suis confiante, je le disais, je pense qu'un accord positif peut être trouvé. Je pense que pas d'accord serait encore préférable à un mauvais accord.
Voilà, alors on en entend un qui dit bon bah goodbye, on sera mieux sans vous. Ouais. Puis l'autre qui dit bon, on part mais on reste un peu avec vous quand même. Alors on comprend pas. Alors, soyons simples.
Oui.
Que veulent les Britanniques aujourd'hui, qu'ont-ils voulu et que veulent-ils maintenant?
C'est absolument fascinant parce qu'en fait tout est dans la réponse de Boris Johnson. Rappelez-vous, en 73 la Grande-Bretagne rentre dans la communauté européenne à l'époque uniquement parce que c'est l'homme malade de l'Europe et qu'elle pense qu'elle a une économie en lambeaux. En 2015, au moment de pendant la campagne du référendum de 2016, enfin qui aura lieu en 2016, que se passe-t-il? Un, les conservateurs gagnent les élections en mai, mais alors, contre toute attente. Deux, l'économie britannique va parfaitement bien. Elle a 5 ou 6% de chômage quand le reste de l'Europe s'enfonce dans la crise et est à 10 ou 12%. Mmh. Trois, la livre britannique va très bien, alors que l'euro ne cesse d'aller de raccommodage en raccommodage, de réunion en réunion, que la Grèce saigne les finances des uns et des autres, que l'on n'entend parler que de crise de l'euro et de crise de l'Europe. Autrement dit, ce qui paraît depuis Londres malade, c'est l'Europe, et ce qui paraît aller bien, c'est la Grande-Bretagne. Donc il est normal qu'à ces conditions, les Britanniques se disent « mais qu'est-ce qu'on fait avec ces pouilleux-là, qui en plus nous retardent, alors que nous avons le monde entier pour nous ?» Mettez-vous à leur place. Donc, on comprend bien qu'à ce moment-là, le problème n'est pas un problème économique, puisque l'économie va bien. Mmh. Donc, le problème est ailleurs, et on a oublié. Mais en 2015, c'est la crise des migrants. C'est 1 million de migrants qui, de reportage après reportage, prennent leur ballot, partent de Turquie, passent par la Grèce et remontent vers l'Allemagne. Or, le pays qui a le plus accueilli de migrants, c'est 15-20 dernières années avec donc maintenant l'Allemagne, c'est justement la Grande-Bretagne. Donc, on voit bien que le débat qui pouvait porter éventuellement sur les avantages et les inconvénients, de savoir si la Grande-Bretagne était mieux ou en dehors, en question de surplus monétaire ou de surplus je ne sais quoi, ne porte pas. Les Anglais pensent que ça va bien, en tout cas économiquement. Ce qui porte, c'est la réalité. Ce sont ces millions, milliers, centaines de milliers de réfugiés qui votent avec leurs pieds, d'une certaine façon, et qui rejoignent la prospère Europe et qui font peur à des Britanniques qui en ont déjà accueilli beaucoup.
Mais qu'est-ce que ça change de quitter l'Europe ?
Eh bien, ils ont l'impression, en tout cas c'est sur ça que porte le débat, c'est-à-dire que les brillants économistes conservateurs pensaient que le débat porterait sur ce qu'ils font toujours, de l'économie. It's the economy, stupid. Vous voyez ce que disait Bill Clinton à propos de sa victoire électorale. Eh bien, c'est un peu ça. Donc le débat conservateur et raisonnable porte sur l'économie. Nous sommes tellement mieux avec l'Europe. Alors que le débat de fond, comme le précise Boris Johnson dit non, l'économie, merci, on se porte mieux sans vous. Le vrai débat de fond, c'est la crise des migrants.
Et c'est ça qui fait basculer,
bien sûr. Moi, j'y étais le soir du Brexit. J'étais pour France Inter, là-bas.
Ah, c'est intéressant, dites-nous.
Dans lequel de la matinale. Ça a été un choc épouvantable, effectivement, pour quelqu'un comme moi. Et je me souviens avoir fait un édito très en colère. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que David Cameron, on a tous eu cette impression, et pas seulement cette impression, a fait de la politique à l'ancienne et a joué effectivement, comme vous le disiez vous-même d'ailleurs, sur l'avenir de son pays à la roulette pour se maintenir au pouvoir. D'ailleurs, ça lui a beaucoup rapporté dans un premier temps et beaucoup coûté dans un deuxième temps. Dans un premier temps, ça lui a beaucoup rapporté parce qu'il a remporté les élections de mai 2015, je le répète, contre toute attente, avec une majorité écrasante, alors que tout le monde prédisait le retour du Labour, on l'a oublié. Mais il l'a remporté cette élection parce qu'elle ne contenait qu'une seule promesse. Celle d'un référendum sur le Brexit. Et au fond, les Britanniques les ont pris au mot. Personne n'a vu à ce moment-là que s'il l'a remporté, c'était ensuite pour la perdre. C'est-à-dire que si les Britanniques tenaient tellement à voter, c'est parce qu'ils tenaient beaucoup à voter. Non, nous ne voulons plus être dans l'Europe.
Alors, est-ce que, n'est pas économiste, mais tout de même, mm-hmm. Est-ce que les Britanniques prennent un risque économique en sortant de l'Europe? Est-ce que leur bonne santé économique aujourd'hui a été aussi forgée par l'Europe? Je dis bien aussi. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent, en tout cas, les économistes britanniques là-dessus?
En ce moment, il est très compliqué de lire la presse britannique parce qu'elle est totalement polarisée. C'est-à-dire que vous lisez Le Guardian, qui est un journal de centre-gauche, et plutôt Remain, c'est-à-dire pour rester dans l'Union européenne, et tout ce que fait le gouvernement britannique est une horreur absolue et conduite à la ruine. Vous lisez Le Telegraph, qui est un journal pour le Brexit, et vous alignez au fur et à mesure les chiffres absolument mérifiques de la croissance britannique et des merveilles. Donc il est très difficile de se faire une idée. Ce qui est sûr et certain, c'est que, un, la livre britannique a perdu 15% de sa valeur secteur depuis le Brexit. Ouais. Est-ce que pour autant les exportations britanniques s'en sont mieux portées? Non, parce que les exportations britanniques ont certes augmenté un peu, mais les importations aussi beaucoup, parce que quand un livre baisse, les uns comme les autres augmentent. Donc ça n'a pas changé, en fait, ce qui était un des paris du fait de quitter l'Union européenne, c'est-à-dire au fond de quitter l'ancrage avec l'euro et de pouvoir jouer de sa monnaie comme on voulait. Les Britanniques tentent ça depuis un an, hein. Ils ont fait baisser leur monnaie de 15%, une espèce de dévaluation compétitive par rapport à l'euro, ça ne marche pas. Donc on voit bien que les premiers résultats ne sont pas forcément favorables en Grande-Bretagne. Quant à ceux qui prévoient que la Grande-Bretagne va s'effondrer tel un château de cartes au lendemain de mars 2019 parce que la Grande-Bretagne aura quitté l'Union européenne, c'est mal connaître la réalité. La réalité, c'est que 40% des devises du monde se négocient à Londres et que ça ne va pas changer d'ici 2019. Autrement dit, le système économique financier mondial se décidera, continuera à se décider à Londres après 2019. Ce qui pousse au réalisme, côté européen, mais aussi côté britannique. Quand on vous dit que les banques britanniques vont quitter Londres, ce n'est pas vrai. C'est pas ça qui va se passer. Donc, on ne va pas assister à un effondrement de la Grande-Bretagne. Par contre, sur des domaines qui sont très particuliers, mais qui sont sur le plus long terme, par exemple, sera-t-il possible encore d'étudier comme européen, avec une certaine façon, au même prix que les Britanniques, en Grande-Bretagne? Je pense que non. Et donc, ça va beaucoup changer l'aspect de la compétitivité de la Grande-Bretagne qui repose beaucoup sur le fait qu'énormément d'étudiants viennent avoir 20 ans à Londres. Mmh. Étudier à Londres à moindre coût, c'est pas tout à fait vrai parce que ça coûte très cher d'étudier à Londres. Mais en tout cas au même prix que les Britanniques. Et d'ailleurs, les premiers inquiets sont souvent ceux auxquels on pense le moins. Les premiers inquiets, ce sont, un, ceux qui ont besoin de bras, vous savez, pour ramasser des fraises dans le Sussex. Deux, les universités britanniques qui vivent beaucoup de ces étudiants étrangers, puisque la Grande-Bretagne est un des pays qui reçoit le plus d'étudiants étrangers au monde. Mm-hmm. Trois, ces entreprises financières qui ne pensent pas perdre Londres comme centre, mais qui aiment bien recruter des jeunes diplômés français et les faire venir pendant qu'ils sont jeunes et à former, et qui là, pour le coup, risquent d'être freinés dans leur importance. Et ça a commencé, puisqu'il semble qu'effectivement la migration a commencé à baisser en Grande-Bretagne. Pour le plus grand malheur, encore une fois, l'agriculture britannique a bien besoin de ramasseurs.
Alors, on va poser la question sur l'autre versant de la question. Mm-hmm. Qu'est-ce que les Anglais ont à perdre? Qu'est-ce qu'ils risquent? Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'est-ce qu'on perd, nous, l'Europe, si les Anglais s'en vont? Parce que cette question-là, on la pose moins. Mm-hmm. Or, je rappelle quand même, puisqu'on parlait d'histoire hier,
tout à fait,
beaucoup, tout ce que les Anglais ont pu apporter à la civilisation européenne moderne, la révolution industrielle, tant de progrès dans la médecine notamment, mm-hmm, leur rôle pendant la guerre. Enfin voilà, est-ce que une famille européenne sans ce fils de famille, c'est possible?
Non, attendez, c'est pas parce que la Grande-Bretagne quitte l'Union que pour autant l'île va s'éloigner comme un vaisseau de nous.
Bah oui, enfin quand même.
Alors là où vous avez raison.
Je parle de famille.
Oui, non, mais tout à fait, tout à fait. D'abord, il ne faut pas oublier qu'il y a 1 500 000 Britanniques qui vivent dans l'Union européenne. Donc, pour être très concret, pour cela, ils sont en train en ce moment de compter leurs abattis, de se demander quelle sauce ils vont être mangés. C'est très insécurisant. Et ça fait partie des toutes premières diasporas européennes en Europe. Mm-hmm. La deuxième chose qu'on va perdre, c'est pour beaucoup de pays qui faisaient partie de l'Europe à 27, la possibilité de se planquer derrière la Grande-Bretagne. Parce qu'on l'a oublié, mais la Grande-Bretagne était tellement dissipée, tellement facile à caricaturer, que beaucoup de pays vous disaient, mais c'est pas de notre faute, c'est les Anglais qui veulent ça. Je pense notamment aux pays scandinaves, qui sont au fond sur le modèle de la Grande-Bretagne. C'est-à-dire qu'eux aussi préféreraient une Union européenne un tout petit peu moins fédéraliste, même beaucoup moins fédéraliste, ou beaucoup moins politique, et beaucoup plus économique et libre-échangiste. C'est aussi leur ADN. C'est le cas des Pays-Bas, c'est le cas de la Suède, c'est le cas du Danemark, c'est le cas de beaucoup de pays au nord de l'Europe. Et puis, la division nord-sud était moins pesante quand la Grande-Bretagne venait l'équilibrer un peu. Parce que là, on va se retrouver beaucoup de pays vont se retrouver en tête-à-tête avec deux pays avec lesquels elles n'ont pas du tout envie de se retrouver en tête-à-tête, qui sont la France et l'Allemagne. L'Est de l'Europe, au fond, s'est beaucoup planqué derrière la Grande-Bretagne pour contrebalancer le poids que commence et que continue de prendre l'Allemagne dans l'économie européenne. Je rappelle quand même que le poids allemand n'est pas tout à fait anodin en Europe. Et qu'il y a beau des pays, je pense à la Pologne, mais aussi à la Hongrie, je pense aussi à la Tchéquie, qui ont une histoire un peu compliquée et mouvementée avec l'Allemagne. Et la France n'est pas forcément une bonne solution pour eux. Parce que la France aussi est un pays impérialiste, qui a une vision impériale de l'Union européenne, au fond, qui est comme tous les autres grands pays de l'Europe, aimerait bien que l'Europe commence par lui ressembler avant de ressembler aux autres, et que cette vision très impérialiste de la France ne plaît à assez peu de monde. Une anecdote. Vous savez que nos conseils européens s'appellent conseils de chefs d'État et de gouvernement.
Mais...
Eh bien, de chefs d'État, il n'y en a qu'un. un seul, c'est le président de la République française. Tous les autres sont des chefs de gouvernement. Ce qui est une manière de montrer combien la France, d'une certaine façon, est un peu seule en Europe sur ce modèle qui est le sien,
oui.
Très présidentialiste et très centralisé. La France, pour beaucoup d'Européens, c'est quand même, ça signifie la peur et l'invasion. Allez voir en Autriche ce qu'ils pensent de Napoléon. Allez voir en Pologne.
En Espagne,
citons de nos invasions avec
Napoléon.
Et en Pologne, ce qui est important, parce que la Pologne, c'est un des pays les plus importants démographiquement de l'Union Européenne, et parce que c'est un pays qui a une histoire mouvementée, évidemment avec l'Allemagne, mais on l'a oublié aussi avec nous. Il nous accuse de trahison, et pas, il n'y a pas si longtemps.
Anthony Bélanger, on se retrouve dans quelques minutes.
Avec plaisir.
See you in your next life when we'll fly away. Stars in our own car, we can drive away from here. Far away, so far.
Anthony Bélanger, oui. On se souviendra que l'homme qui a présidé au Brexit s'appelle David Cameron.
Ouais.
Personnage intéressant,
parle-nous un peu de Cameron. Passionnant, parce que David Cameron, c'est le meilleur d'entre nous. C'est ces hommes politiques absolument parfaits, qui sont quadragénaires, qui arrivent au pouvoir tôt, qui ont tout bien fait. Le bon élève, qui ont fait toutes les bonnes écoles, qui ont fait tout ce qu'il fallait et qui en plus sont extrêmement brillants, sont entourés de gens qui sont extrêmement brillants et qui sont insupportables. Je vous conseille d'aller assister à 5 minutes de discours de David Cameron, par exemple pendant la campagne électorale de 2015, cette campagne qu'il allait remporter. Et cet homme est une machine politique. Il n'y a pas moyen, un journaliste lui pose une question, de le faire sortir du discours politique policé. C'est insupportable. Et c'est en partie contre cette façon de faire de la politique qui avait commencé avec Tony Blair, si policé, si parfaite, avec ses spin doctors qui tournent autour, que les Britanniques se sont un peu révoltés. Theresa May est un peu sur le même modèle, et c'est terrible à dire, mais c'est vrai que la politique professionnelle telle que l'a fait David Cameron a pu paraître insupportable à beaucoup de Britanniques. Par ailleurs, il est vrai qu'il a fait des calculs de trigonométrie en se disant en fait quel était son problème. Il avait un parti politique divisé en deux entre grosso modo beaucoup de Brexiteurs et beaucoup de Remainers. Impossible de les faire s'entendre ces deux-là. Il a décidé de faire un référendum pour pouvoir parvenir au pouvoir. Calcul politique, et en essayant de retarder le plus possible la date du référendum. Et donc, il a même dit aux Britanniques qu'il le ferait pendant son premier mandat, puis ensuite il a dit non, je le ferai si vous m'élisez pour mon deuxième mandat, ce qu'ont fait les Britanniques. Donc vous voyez, toute cette façon de faire de la politique parfaitement policée, a semblé tout à coup absolument insupportable à une partie de la population. Par ailleurs, c'est un conservateur qui a dirigé son pays pendant la crise, qui a donc énormément fait de coupes budgétaires, pas forcément pour réduire le budget de l'État britannique, qui a toujours été très très élevé pendant toute la période de la crise. Non, pour servir un agenda conservateur qui consiste à diminuer le rôle de l'État.
Mais...
Et quelques jours, par exemple, avant le référendum, il a quand même fait savoir aux Britanniques, qui l'ont pris comme une baffe dans la figure, qu'à partir de la rentrée prochaine, les années d'études en Grande-Bretagne, qui avaient un top à 9000 livres, ça veut dire 9000 livres sterling par an, ça veut dire 10 000 euros par an, pour tous les étudiants britanniques. Eh bien, c'était un top, ça ne pouvait pas aller plus haut. Eh bien, il a décidé de faire sauter ce top. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que c'était une grande gifle pour la plupart des familles moyennes qui n'ont pas de bourse, qui doivent envoyer leurs enfants à l'école.
C'est même une catastrophe. Là.
C'était même une catastrophe épouvantable. Tout à fait, c'est une catastrophe. Il suffit d'avoir 2-3 enfants et c'est une catastrophe économique. Et donc, il y a eu un ras-le-bol, non pas forcément contre l'Europe, mais il y a eu un ras-le-bol contre cette façon de faire de la politique, contre ces annonces austéritaires les unes après les autres, alors que la Grande-Bretagne, a priori, allait bien, et contre ces inégalités que le gouvernement conservateur avait creusées. Autrement dit, il a fait de la politique politicienne et de la politique politicienne conservatrice avant de s'occuper de savoir si la Grande-Bretagne devait ou non rester dans l'Union européenne.
Et donc ce référendum s'est avéré suicidaire.
Il s'est avéré suicidaire pour toutes les raisons que je vous ai dites, et il s'est avéré suicidaire aussi parce qu'au fond, tous ceux qui voulaient rester au sein du Parti conservateur dans l'Union le faisaient pour des raisons raisonnables. Alors que ceux qui voulaient en partir le faisaient pour des raisons déraisonnables qui ont beaucoup plus britanniques.
Et parmi les raisons les plus déraisonnables, il y a des raisons tragiques, en tout cas un événement tragique dans cette campagne en juin 2016. Rappelons-le, à 15 jours du vote, la députée travailliste pro-européenne Jo Cox s'est assassinée en pleine rue dans sa circonscription du Yorkshire par un militant d'extrême droite au cri de « Britain first ». La campagne est suspendue 3 jours. Alors, cette haine de l'autre, de l'étranger, de l'Europe, ça rappelle aussi aux USA le slogan de Trump, hein, « Make America great again ». Cette poussée de nationalisme, de repli sur soi, de populisme. L'Angleterre et le Brexit en ont été une illustration ou non? Ça se mélange.
Oui et non. C'est-à-dire que oui, on est vraiment quasiment touche-touche à la même période. Vous avez l'élection de Trump et le Brexit en Grande-Bretagne. C'est un moment de l'histoire. Il se trouve que le référendum britannique s'est trouvé emmêlé dans ce moment de l'histoire. Je rappelle toujours que ce moment de l'histoire, c'est celui aussi de la grande vague de migrants qui a fait si peur dans beaucoup de pays qui avaient en plus pris l'habitude de recevoir beaucoup de migrants. On a bien vu que cette vague de populisme s'est brisée quelques mois plus tard sur les Pays-Bas. Pour commencer, on avait prédit, vous vous souvenez, hein, la victoire de Geert Wilders, ce parti d'extrême droite, qui est donc un des pires partis d'extrême droite d'Europe. Enfin, quand je dis un des pires, c'est-à-dire un des plus radicaux, qui, dans son programme, disait qu'il fallait fermer toutes les mosquées aux Pays-Bas. Et bien finalement, il a obtenu un tout petit 12% aux élections, alors qu'on lui prédisait 22-23% avant les sondages. On a d'ailleurs appris à cette occasion, et comme une fois de plus, qu'il fallait absolument se méfier des sondages. Sauf que tout à coup, aux Pays-Bas s'est arrêtée une vague qui s'était aussi arrêtée un petit peu avant en Autriche, et qui a fini par se briser sur l'élection française.
Enfin, ça n'est peut-être qu'un phénomène historique aussi. Ça peut-être une évolution historique. Aujourd'hui, c'est ça. Ça ne préfigure pas de demain.
Non, mais d'abord, non. Il n'y a rien de préfigure de demain. On est toujours surpris par l'avenir, y compris par ce qui peut se passer à droite et à gauche, bien sûr. Mais ce qui est vrai, c'est que d'une certaine façon, la Grande-Bretagne et les États-Unis se sont trouvés pile dans cette montée de vague. Et que je pense qu'après, il y a une espèce de peur en retour des peuples d'Europe et du monde qui ont, les uns après les autres, décidé de tout après Trump et après le Brexit de revenir à des choses plus raisonnables. Mais bon, c'est drôle de faire des analyses psycho-historiques à propos du vote des peuples,
politiques,
ou politiques à propos du vote des peuples. Mais enfin, en tout cas, le phénomène est très clairement, on peut très clairement se suivre de pays en pays, d'élection en élection, après le Brexit et après l'élection de Donald Trump. Je vous le dis, de l'Autriche aux Pays-Bas, en passant par la France et puis d'autres pays aussi.
Anthony Bélanger, on va se retrouver une dernière fois dans quelques minutes. Et là, on parlera d'agenda. Le Brexit. Quand on parle d'agenda, c'est la question, c'est quand. Donc à tout à l'heure.
À tout à l'heure. We'll be right back.
Anthony Bélanger, on se retrouve pour le troisième set de cette partie autour du Brexit. Alors, il y a des questions de calendrier. Vous allez m'éclairer un peu parce qu'on finit par se perdre. Hein. Le calendrier est arrêté. Tout doit être bouclé à l'automne 2018 pour une sortie effective au printemps 2019. Alors, c'est un calendrier tenable. Il faut s'attendre à ce que ça se passe comme ça ou ça peut bouger.
Ah bah alors, écoutez, ça, c'est fascinant parce que... Je vous disais hier, en fait, que les Britanniques, négocient depuis 3 siècles, et donc depuis toujours, depuis l'histoire moderne, uniquement et toujours des traités de libre-échange. Qu'est-ce qu'ils veulent négocier cette fois-ci? Un traité de libre-échange avec l'Union Européenne. Donc, quand on est un négociateur, il faut s'en méfier comme de la peste des Britanniques, qui savent jouer de toutes les possibilités. Vous avez raison, le calendrier est celui-là. Il faut absolument, puisque la Grande-Bretagne doit être sortie de l'Union Européenne avant mars, parce qu'il y a des élections tout simplement juste après, avant mars 2019, il faut que les négociations soient conclues un peu avant pour qu'on puisse mettre tout ça en place. Oui. Bon, ça, c'est l'agenda de l'Union Européenne. Donc on a déjà dit le temps que ça allait prendre aux Britanniques. Ce qui est une très mauvaise argument de négociation. Parce qu'il suffit que les Britanniques jouent le temps pour semer la panique dans le camp adverse. Enfin, c'est un béaba de négociation. Tout le monde a appris ça.
On dévoile pas toutes ces cartes.
Non voilà. Seulement on dévoile pas toutes ces cartes, mais les deux principales. C'est-à-dire le temps que ça va mettre et le prix que vous allez payer. Or, l'Union Européenne, pour être un peu désagréable, a déjà commencé par dire le prix que ça allait coûter aux Britanniques et le temps que ça allait mettre. Donc les Britanniques n'ont plus qu'à jouer le temps, de dire « Ah ben non, mais on n'est pas d'accord, on sait pas
qu'est-ce qu'ils ont gagné à jouer le temps ?»
Eh bien, ils ont à gagner la panique des marchés, tout simplement. Diviser pour mieux régner. Attendez, ils ont encore un troisième atout dans leur manche, c'est que eux sont seuls, nous sommes 27.
Oui.
Donc, ils vont forcément, au fur et à mesure où les échéances s'approchent, commencer, et vous allez voir que ça va marcher, par jouer les Néerlandais contre les Suédois, contre les Allemands, contre les Français, contre les Britanniques. Alors, d'ailleurs, les Européens sont pas stupides. Ils ont nommé un homme. Michel Barnier. Ouais. Michel Barnier qui est un cauchemar pour un Britannique. Hein. Vous savez que Michel Barnier refuse de négocier en anglais. C'est d'ailleurs lui qui a raison. On négocie toujours dans sa langue. Sinon, c'est perdu. Sauf que il y a déjà un autre homme pour représenter le Parlement et un troisième pour représenter la Commission. Ça fait déjà 3 négociateurs qui doivent s'entendre ensemble. Et puis ensuite, que font ces 3 hommes? Eh bien, ils vont rapporter au Conseil européen, c'est-à-dire aux 27 réunis pour leur dire, bah, alors où en sont les négociations? Et donc, grosso modo, les Britanniques jouent la montre en attendant la première division. Elle ne va pas manquer d'arriver, je vous le dis. Et à partir de ce moment-là, ils vont commencer à jouer les uns contre les autres, en sachant que de toute façon, ça doit être terminé en 2018. Moi, je vous dis, les Britanniques négocient depuis 3 siècles des accords de libre-échange, ça leur a toujours réussi. Il n'y a aucune raison que celui-là, il ne réussisse pas ou ne gagne pas cette négociation. Maintenant, il faut faire attention aussi, parce que les négociations, ça se gagne ou ça se perd dans le passé. C'est l'avenir de l'Europe qui est en jeu d'un côté, et d'autre part, la place de la Grande-Bretagne en Europe de l'autre côté. C'est un traité à somme nulle, c'est ça que je veux dire.
Alors, avoir déployé tant d'efforts pour entrer dans le marché commun et finir par un marché de dupes, c'est quand même pas mal. Hein.
Bravo.
Mais je vous en prie. Au revoir Anthony Bélanger.
À bientôt.
Merci. Affaire sensible à la fiction, aujourd'hui Brexit, chronique d'une rupture annoncée, écrite par Vincent Hazard, réalisée par Cédric Ossire. Émission proposée par Christophe Barrère, réalisée par Al Nioro, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Kevin Pelot.